Donc, je voudrais vous présenter notre conférencier de ce soir, Michel Morvan, qui est professeur au Santa Fe Institute, qui était jusqu'à il y a peu, jusqu'en 2008, professeur d'informatique à l'École normale supérieure de Lyon et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il était titulaire de la chaire de modélisation des systèmes complexes. Il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France et de l'Eisenhower Fellow. Et il est donc aujourd'hui dans l'industrie, puisqu'il est le directeur scientifique du groupe Veolia Environnement. Je lui passe la parole pour 50 minutes, pour qu'il nous parle de l'ingénieur et de la recherche, comment inventer la connaissance.
Merci beaucoup. Je remercie bien entendu l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité et de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir avec vous. Merci bien entendu aussi à Yves Michaud qui est à l'origine de cet extraordinaire cycle de conférences et en l'occurrence à Franck Debout qui est la personne qui m'a invité, qui est un des organisateurs du cycle. Alors, parler de l'ingénieur et de la recherche, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement vaste. Les ingénieurs, et en particulier dans un pays comme la France où la formation d'ingénieurs joue un rôle absolument prépondérant, les ingénieurs ont vocation à se retrouver au cœur du processus de recherche. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet et à la manière dont j'allais le traiter, je me suis rendu compte que j'avais énormément de points d'entrée dans ce sujet. Et comme si le sujet n'était pas suffisamment large, j'ai proposé de rajouter en fait un sous-titre, mais qui, vous allez le voir en tout cas, et j'espère que vous en serez convaincus à la fin, est extrêmement important justement par rapport à ce point de vue que je vais vous présenter, c'est « Inventer la connaissance ». Donc, sujet déjà très large, auquel je rajoute un sujet encore plus large. Alors, vous direz que je manque pas d'ambition, ou de prétention peut-être. Je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'idées autour de ça, dans lequel je vais essayer de vous montrer que bien entendu, l'ingénieur a joué un très grand rôle dans l'invention de la connaissance par le passé, et qu'il va certainement continuer à le faire, mais que la thèse que je défends, c'est que la connaissance est en train de changer de nature. Et la connaissance que nous allons collectivement tous avoir à inventer est une connaissance d'un nouveau type, ou en tout cas que à la connaissance classique, que je décrirai, et je vais parler principalement de connaissances scientifiques et techniques, vient s'ajouter maintenant une connaissance qui est un peu nouvelle. Et la plupart des problèmes, des grands problèmes auxquels nous avons à faire face, sont intrinsèquement liés à ce nouveau type de connaissances. Et donc, j'essaierai de vous montrer justement comment les ingénieurs peuvent jouer un rôle pour l'invention de cette nouvelle connaissance. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui, elle va s'articuler autour de trois axes, pas très formels et rigoureux, mais dans un premier temps, je vais simplement rappeler rapidement de quelle manière l'ingénieur est au cœur du processus de recherche, que ce soit le processus de recherche public ou le processus de recherche privé. Avec les spécificités françaises et peut-être un certain nombre de questions qu'on peut se poser à ce sujet. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer pourquoi je pense que la connaissance est en train de changer à la fois d'importance et de nature, et qu'on est en train d'assister à un bouleversement des rôles par rapport à cela, et qu'il est très important qu'on soit capable de s'y préparer et que chacun arrive à trouver la place qui est la bonne et la place qui sera la bonne pour que tous nous puissions bénéficier de l'invention de la connaissance et d'y avoir un meilleur accès possible. Je ne vais évidemment pas détailler l'ensemble du sujet de l'invention de la connaissance, qui est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup en ce moment avec un certain nombre d'autres axes sur lesquels on pourrait aussi parler, que je mentionnerai au cours de ma présentation, mais je vais focaliser principalement sur les ingénieurs. Et donc la troisième partie de ma présentation sera justement d'essayer de voir rapidement comment l'ingénieur va trouver sa place dans ce nouveau processus. Alors, premier point, donc l'ingénieur au cœur du processus de recherche. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pratiquer à la fois dans le public et dans le privé, puisque comme ça a été mentionné, j'ai travaillé dans des laboratoires de recherche, j'ai dirigé un institut de recherche moi-même dans lequel il y avait des chercheurs et des ingénieurs, avec un double vocable, en fait, ce qu'on appelle les ingénieurs de recherche. Et j'ai aussi pratiqué ça dans le privé. En tout cas, je le pratique depuis que je suis dans le groupe Veolia Environnement. Dans ces deux contextes, le mot recherche est utilisé parfois de manière un petit peu différente, ou en tout cas ne recouvre pas nécessairement exactement la même chose. Ces deux acceptions du mot sont complémentaires. En particulier, on va le voir, même s'il y a des recouvrements. Alors, si vous regardez dans le public, dans le monde public, le monde public, c'est le monde académique, les universités, en France, le CNRS, les grands organismes, la recherche est très orientée vers un travail fondamental. On travaille beaucoup sur les concepts, on travaille beaucoup en amont. Et il y a aussi un travail appliqué, c'est-à-dire que un certain nombre de chercheurs essaient d'appliquer les concepts fondamentaux qui ont été trouvés par eux ou par d'autres à une ou plusieurs applications concrètes. Alors, la manière dont on emploie le terme appliqué quand on est dans la recherche universitaire ou dans la recherche académique, c'est souvent, alors ça peut être à des applications très concrètes, mais ça peut aussi être appliqué à d'autres domaines scientifiques. Par exemple, si je fais de la recherche en modélisation en biologie, je fais de la recherche qui est appliquée pour la biologie, mais en fait, mon application peut être dans de la biologie très très théorique. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que je suis très proche d'une application. Et puis, recherche fondamentale, travail fondamental, travail amont, travail appliqué, et parfois, assez peu souvent, une partie de valorisation des travaux de recherche, qui peut dire des collaborations en particulier avec le monde industriel, du transfert technologique et parfois aussi d'ailleurs de la création de start-up, même si en France c'est assez rare et je le regrette, j'y reviendrai après. Cette dernière partie qui vont de la valorisation au transfert technologique et à la création de start-up sont encore une fois assez peu développées dans le monde académique français, plus développées dans certains autres pays. Alors ça c'est la partie académique. Dans le domaine privé, en général, on utilise le terme recherche et développement. On parle de R&D. Et la R&D, ça recouvre en général quelque chose de beaucoup plus large. Ça recouvre de la recherche amont. Il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles on fait de la recherche très très fondamentale. Alors, il y en a en général, c'est moins que dans le monde académique, mais pas toujours. Il y a bien entendu la recherche appliquée. Il y a des applications très très concrètes de la recherche, évidemment, qui sont développées dans le privé, puisque c'est ça qui tire la recherche. Le financement de la recherche dans le privé arrive justement parce qu'on espère, à un moment donné, pouvoir valoriser commercialement les recherches qui ont été faites. Et donc, ce qui tire la recherche dans le privé est moins une volonté de découvrir ou d'inventer de nouvelles connaissances en tant que telles, mais d'inventer des nouvelles connaissances à destination d'un certain nombre d'applications. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la recherche qui se fait est purement liée à des domaines d'application particulières. Actuellement, par exemple, dans la recherche et développement de Veolia, on travaille sur un certain nombre de points qui n'ont pas, pour l'instant, d'application directe, mais pour lesquels on pense qu'à terme, il pourrait y en avoir dans le monde de l'environnement ou dans le monde du développement durable. Et puis, la R&D, ça va plus loin que ça. Il y a souvent, ça peut englober en tout cas une partie industrialisation, et puis même parfois une partie développement opérationnel. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ma recherche, que j'ai réussi à faire un pilote, comment est-ce que je le passe à une échelle industrielle, et puis comment, ce qui pose de nouvelles questions, qui nécessite l'invention de nouvelles connaissances, et puis comment est-ce que je suis capable d'en faire un déploiement opérationnel qui va s'avérer viable pour l'entreprise. Alors, c'est dans deux cas, vous voyez qu'il y a un recouvrement, c'est pas complètement séparé, mais il y a des réalités différentes. L'ingénieur dans ce schéma va trouver des rôles un petit peu différents. Si on dessine à très gros traits, l'ingénieur va avoir une place dans la recherche privée beaucoup plus importante que la place qu'il n'a aujourd'hui dans la recherche publique. Si vous regardez la recherche publique est pilotée principalement par des gens qui ont un doctorat, qui sont des docteurs et qui sont devenus enseignants-chercheurs ou chercheurs ou professeurs et dont le diplôme principal est le diplôme de doctorat. Il y a un certain nombre d'ingénieurs, il y en a beaucoup dans le monde académique, mais il est rare qu'ils occupent les premiers rôles. J'ouvre une toute petite parenthèse pour dire simplement, à mon avis, à tort, et je ferme la parenthèse, je pense que ça n'a pas nécessairement de justification, si ce n'est que dans un certain nombre de cas, en effet, il est vraiment nécessaire d'avoir un doctorat pour faire la recherche, mais souvent c'est plus une habitude, ou le fait que les gens qui recrutent étant eux-mêmes docteurs, ils ont tendance à recruter des gens comme eux. Et en tout cas, un premier point, c'est je pense que dans le monde public, on pourrait mieux reconnaître le travail des ingénieurs, mais j'y reviendrai aussi. Dans le monde privé, en revanche, la part belle est faite aux ingénieurs, pas nécessairement à tort d'ailleurs, loin de là, même si, de même, on ne fait pas nécessairement la meilleure place aux gens qui ont un doctorat, à peu près pour des raisons similaires. Le doctorat est peu connu dans le monde de l'entreprise, en tout cas pas assez, et comme les gens qui sont en place souvent n'ont pas de doctorat, ben ils recrutent des gens qui leur ressemblent, c'est souvent des ingénieurs. Et là encore, c'est des choses qui sont pas forcément bonne. Alors, clairement, les ingénieurs vont jouer le plus souvent, encore une fois, un rôle plus vers la partie aval, donc l'application, la mise en œuvre concrète sur des problèmes concrets, des avancées plus conceptuelles qui ont été menées et imaginées par la recherche amont, l'adaptation d'idées générales à des problèmes particuliers, ce qui nécessite une maîtrise très très grande de non seulement de sujets pointus et difficiles. C'est pour ça que la formation d'ingénieur est une formation qui est de très haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut que les ingénieurs soient capables pour pouvoir interagir avec avec les concepts extrêmement complexes qui ont été mis en œuvre et développés. Ben, il faut qu'ils aient une très très grande expertise. Et donc, il y a le besoin de comprendre des sujets très complexes. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est que on a parlé de l'application et de la mise en œuvre concrète, on a parlé de l'adaptation d'idées générales. Il y a un troisième point qui est extrêmement important, qui est l'intégration de concepts différents, éventuellement issus de domaines différents, de disciplines différentes, en vue d'apporter une solution concrète, originale, et qui est en soi une nouvelle connaissance. L'invention d'une nouvelle connaissance. Et donc ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister. Le rôle en particulier des ingénieurs et plus généralement des intégrateurs, des gens qui sont amenés à intégrer des connaissances existantes en vue de trouver une nouvelle solution, est aussi l'invention d'une nouvelle connaissance. Et malheureusement, je trouve que c'est pas toujours suffisamment reconnu. Et puis, dernier point donc, que j'ai évoqué aussi, le rôle des ingénieurs va évidemment se retrouver dans le développement et puis le déploiement industriel de ce qui a été de l'ensemble de ces aspects. Donc, comme je le disais, on a à la fois dans le public et dans le privé de la recherche, d'un côté de la recherche, de l'autre côté de la recherche et développement. Les ingénieurs sont des acteurs clés des deux côtés, avec un point un petit peu différent et souvent des rôles un petit peu différents. Et avec cette répartition finalement du travail entre les docteurs d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Alors, ce que je crois, et on y reviendra, c'est que ces choses-là sont en train de changer, et en tout cas, si elles ne changent pas, elles doivent changer pour des raisons que j'évoquerai par la suite. Alors, si on regarde, justement, si on compare ces deux aspects, le docteur et l'ingénieur, dans ce contexte de recherche, si on regarde qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur en France en particulier, d'abord c'est quelqu'un qui a été sélectionné par en général des concours de très haut niveau. C'est quelqu'un qui a reçu une formation à Bac+5, qui est une formation large, qui est une formation qui est très orientée vers le concret, et le lien en particulier avec le monde de l'entreprise. Et c'est fondamentalement quelqu'un qui a appris, dans des contextes très difficiles, à savoir résoudre des problèmes. C'est vraiment être capable justement d'intégrer les différents aspects de la solution des problèmes. Si vous regardez ce qu'est un docteur aujourd'hui, donc quelqu'un qui a un doctorat, c'est souvent des gens qui sont issus de l'université, donc des gens qui ont été, on va dire, moins sélectionnés au départ, même si in fine il y a une très forte sélection tout au long de la formation. C'est une formation à Bac+8 et c'est une formation qui est très très en profondeur. Quand vous faites un doctorat, vous allez pendant 3 ans travailler de manière extrêmement soutenue sur un sujet en particulier que vous allez essayer de comprendre très très en profondeur. C'est quelque chose de très difficile, et fondamentalement, moi j'ai l'habitude, de manière pour provoquer un petit peu, mais je crois que ça décrit une partie de la situation, et c'est très important par rapport à notre question. Un ingénieur a appris beaucoup de choses et a appris à savoir beaucoup de choses et a appris finalement, il a appris à il apprend ce qu'il sait. Il sait ce qu'il sait. Il est capable d'acquérir des nouvelles connaissances et de les appliquer à des nouveaux problèmes. J'ai tendance à dire souvent que ce qu'on apprend pendant le doctorat, c'est l'immensité de tout ce qu'on ne sait pas. Et quand vous commencez à attaquer un problème en essayant d'aller au fond des choses, vous rendez compte de tout ce que vous ne savez pas. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai eu l'occasion et la chance d'avoir une discussion avec un prix Nobel de chimie qui à la fin de la discussion me disait mais tu sais en fait fondamentalement l'eau je sais pas du tout ce que c'est. Et c'était à la fois une boutade et à la fois pas une boutade. C'est-à-dire que quand vous commencez à rentrer très très en profondeur dans un sujet, vous découvrez l'étendue de votre ignorance. Et encore une fois, je ne crois pas que l'un soit mieux que l'autre. Il y a du positif et du négatif des deux côtés. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours bien de penser qu'on sait et qu'on va pouvoir, en assemblant des méthodes, nécessairement trouver une solution, parce que parfois on est en face de choses pour lesquels ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, quand vous avez quelqu'un qui, finalement, ce qu'il connaît le mieux, c'est l'étendue de son ignorance, ça peut être extrêmement intéressant, mais dans un contexte un peu plus pratique, parfois, on aimerait bien dire, ok, on a compris tout ce que tu sais pas, mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous résoudre le problème? Et je crois que il n'y a pas d'opposition fondamentale, c'est une description à gros traits, mais qui, à mon sens, en tout cas de l'expérience que j'ai, recouvre une partie de ces différences. Et dans le cadre de la question de l'invention de la connaissance et du lien entre ingénieur et recherche, je pense que c'est important d'avoir cet éclairage en tête. Et encore une fois, j'y reviendrai quand je reviendrai sur les besoins que nous allons avoir dans les années qui viennent. Alors, encore une fois, je viens de passer très rapidement sur ce qu'est un ingénieur et quel rôle il peut jouer dans le monde de la recherche. La deuxième partie du titre de la présentation, c'est inventer la connaissance. Et ce que je vous ai dit que j'allais défendre, c'est l'idée que on est en face d'un nouveau type de connaissance et que au XXIe siècle, on n'inventera plus seulement uniquement la même connaissance et le même type de connaissance que celle qu'on avait inventée jusqu'au XXe siècle. Et je vais essayer de donner des exemples et d'expliquer pourquoi je pense cela. Il y a une histoire que j'aime bien, c'est à la fin des années 80 et qui me semble-t-il est assez représentative, y compris dans le déroulé temporel de la manière dont elle s'est produite. À la fin des années 80, il y a James Watson qui était l'un des prix Nobel qui avait découvert la structure en double hélice de l'ADN. Il s'est vu confier un grand programme de recherche de 15 ans. Par un grand institut de recherche américain, et le but de ce grand projet, c'était de décoder le génome humain. Grosso modo, vous savez que dans toutes nos cellules, on a des gènes, et ces gènes proviennent de l'ADN, et la question de savoir quels sont ces gènes, l'homme a entre 30 et 40 000 gènes. Donc dans chaque cellule, hein, vous avez potentiellement entre 30 et 40 000 gènes. Enfin, vous avez 30 et 40 000 gènes. La question était de savoir quels étaient ces gènes et qu'est-ce qu'ils faisaient et quel était leur potentiel. Et donc, il y a eu un énorme projet sur 15 ans qui a mobilisé de la recherche fondamentale, mais il y avait bien entendu d'extraordinaires attentes d'un point de vue application, y compris les applications industrielles, c'est les applications pharmaceutiques. Et donc, c'était un projet extrêmement ambitieux. Alors, les gens ont énormément travaillé là-dessus, ils en ont beaucoup parlé, ils ont dit « Ah, c'est formidable, on va décoder le génome humain, et puis une fois qu'on aura décodé le génome humain, l'idée, et encore une fois, je vous le fais court, était de dire, eh ben, quand on saura tous les gènes, on associera à chaque gène une fonction, et puis on saura, en regardant vos gènes, est-ce que vous allez avoir telle maladie, est-ce que vous allez être grand, est-ce que vous allez être petit, est-ce que vous allez être alcoolique, est-ce que vous... Bon. » Alors, j'y reviendrai, on a appris par la suite que c'était pas aussi simple que ça. Et puis, pour être très honnête, je pense pas que ni James Watson ni ses collègues ne l'aient jamais cru. Mais c'était un bon moyen de vendre hein, le truc, puisque tout ça coûtait extrêmement cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des années 90, il y a une entreprise qui s'appelle Celera Genomics, qui est arrivé et qui a dit mais en fait ce qui est en train d'être fait par le monde public, par la recherche publique, parce que c'était un très très gros consortium de chercheurs qui était derrière James Watson, qui était dans le monde entier, ils ont dit mais en fait on va utiliser des méthodes, des nouvelles technologies de traitement de masse des objets biologiques et on ira beaucoup plus vite et on n'aura pas besoin de tout le temps que vous allez prendre. Et donc, s'en étant suivi un très grand débat, puisque la question c'était, mais est-ce que scélérat génomique ne va pas s'approprier le patrimoine de l'humanité, hein, si on considère que le génome de l'homme est patrimoine de l'humanité. Donc il y a eu un grand débat, encore une fois, tout le monde, je pense, était très content qu'il y ait ce débat. Scélérat génomique, c'est parce qu'on parlait d'eux, les autres, parce que du coup, évidemment, on n'allait sûrement pas leur sucrer leur crédit, puisqu'il y avait à côté des gens qui disaient, on va le faire à votre place, etc. Et in fine, en 2000, le programme Bill Clinton a annoncé que le programme était terminé et que, miracle, les deux avaient à peu près résolu le problème en même temps. Pour la petite histoire, Scélérat Génomique, ça a après admis qu'ils avaient utilisé les résultats des autres pour avancer plus vite. Mais voilà, donc ça c'était un point très important. Et voilà, on a décodé le génome humain. Et c'est très très symptomatique ce qui a été fait là. D'une approche très très analytique qu'on retrouve beaucoup dans ce qui se fait encore et dans ce qui se faisait beaucoup pour résoudre un problème, c'est-à-dire si je veux comprendre comment se développe le vivant, si je veux comprendre comment il fonctionne, si je veux comprendre comment se développe l'homme, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille comprendre le plus précisément possible tout ce qui est tout petit et les petits phénomènes, je découpe ça un maximum, et puis une fois que j'aurai compris chacune des petites entités, et bien à ce moment-là j'aurai vraiment fait une avancée considérable et j'aurai compris le phénomène global. Alors c'est une approche qui a très très bien marché, qui marche très bien très souvent, mais on va y revenir. En l'occurrence, ça évidemment fermer des questions, et ça c'est très bien, ça a permis d'apporter des réponses à un certain nombre de questions, mais ça a surtout ouvert une masse gigantesque de problèmes dont on va voir qui sont de nature un petit peu différente du type de problème on était confronté, qui consistait à dire, allez, je vais aller découper la cellule, je vais aller découper ce qu'il y a dedans et je vais comprendre chacun des éléments, puis ensuite j'aurai compris l'ensemble. Si avant de venir à ça, j'insiste aussi pour montrer que ce type d'approche et ce type de grand projet de recherche était aussi très exemplaire d'un certain type de travail de recherche dans lesquels finalement les docteurs, les ingénieurs, mais aussi les techniciens trouvaient une place dans une chaîne de construction de la connaissance qui allait de recherche très très amont, des biologistes, des gens qui étaient monde académique, très souvent qui avait un doctorat, qui avait compris un certain nombre de choses et de concepts très très amont, et puis ensuite des équipes de gens qui travaillaient sur des sujets plus appliqués, comment utiliser ces concepts, dont beaucoup d'ingénieurs, pour développer toute l'ingénierie qui derrière permettait d'arriver au résultat. Pardon. Et puis en parallèle, Scélérat Génomique, qui avait utilisé énormément de technologies, beaucoup beaucoup d'ingénieurs, beaucoup beaucoup de techniciens pour aller de plus en plus vite au fur et à mesure que la connaissance fondamentale s'affinait, on pouvait la décliner de plus en plus d'un point de vue technologique. Et donc c'était vraiment le type de recherche et le type de finalement de séparation du travail entre un certain nombre de catégories de personnes qui toutes participaient à ce processus. Si vous regardez ce qui s'est fait dans l'industrie nucléaire, par exemple, c'était la même chose. Il y a eu des grandes recherches fondamentales, et puis ensuite, il a fallu transférer ces recherches pour faire des centrales ou faire tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, il y a eu des corps d'ingénieurs qui ont été formés pour être capables d'appréhender l'extraordinaire complexité et difficulté de ce qui avait été mis à jour par les théoriciens pour le transformer en, ben, je suis capable, j'ai de l'électricité quand j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc, la connaissance jusqu'à la fin du XXe siècle et dans beaucoup de cas encore aujourd'hui, et ça va continuer, se passait avec ce type d'approche très réductionniste. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique sur le terme réductionniste, mais ce que je veux dire par ce mot, c'est l'idée, pour résoudre un problème, je vais le découper en tout un tas de problèmes beaucoup plus petits, et quand j'aurai résolu les problèmes beaucoup plus petits, que j'aurai compris chacun des éléments, alors je pourrai facilement comprendre ce qui se passe au niveau global. C'est fondamentalement, toute la physique par exemple, c'est construite comme ça, et avec des rôles bien, bien établis. Ce qui est en train de changer, c'est que ça va plus se passer comme ça, et dans beaucoup de cas, très important, ça ne va plus se passer comme ça. La connaissance sera de nature différente, la façon de l'inventer, de la transmettre va aussi être différente. Alors si on continue cette petite histoire du décodage du génome humain, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a décodé le génome ? Alors encore une fois, je vous fais rapidement une histoire très longue et bien plus complexe que ce que je suis en train de raconter. Imaginons maintenant, je dis, ah, formidable, j'ai le génome, ça y est, je sais quels sont les gènes. Bon, ben alors, je vais essayer d'expliquer d'où viennent les formes dans le vivant. Pourquoi mon doigt a cette forme? Pourquoi mon foie a cette forme? Pourquoi mon cœur a cette forme? Finalement, si je sais tout sur les gènes, ben, je vais pouvoir répondre à cette question. Manque de chance. On se rend compte, dès qu'on essaye de le faire en vrai, et il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec des biologistes, que c'est extraordinairement complexe. Pourquoi est-ce que c'est extraordinairement complexe? Parce que si vous voulez comprendre la forme et l'émergence de la forme dans le vivant, qu'est-ce que vous devez considérer? Bien entendu, vous devez considérer les gènes. Et dans chaque cellule, vous avez les fameux 30 000 gènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut se dire, ben voilà, en fonction des gènes qui sont actifs ou pas actifs chez moi, eh bien, par exemple, ma cellule va grossir plus ou moins vite ou va avoir plus ou moins telle ou telle forme. Et donc, l'ensemble des cellules qui sont les unes à côté des autres et qui forment un tissu, ben, va prendre telle ou telle forme et je vais résoudre le problème. Alors, il y a deux tout petits problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est que les gènes ont le mauvais goût de ne pas se contenter d'être actif ou inactif. Ça serait facile, le gène est actif, tiens, j'ai la propriété, le gène est inactif, je n'ai pas la propriété. Par exemple, de me développer très vite, ou que ma cellule se développe très vite, ou qu'elle se développe très lentement. Manque de peau, ce qui se passe, c'est que chaque gène, quand il est actif, il a tendance à empêcher d'autres gènes d'être actifs. Et quand il est inactif, cela permet à d'autres gènes d'être actifs. Donc il ne faut pas simplement considérer chacun des gènes, mais il faut considérer l'ensemble des gènes et les interactions mutuelles. Tel gène est actif, ah ben ça va inhiber tel autre gène, mais ça va permettre à tel troisième gène d'être actif, qui lui-même va permettre à tel autre gène d'être actif, et ceci avec 30 000 gènes. Donc, premier niveau de complexité qui apparaît, connaître chacun des gènes et savoir ce qu'il est capable de faire, c'est simplement la toute première étape dans la compréhension d'un phénomène qui est bien plus complexe et qui résulte non plus seulement de la connaissance d'un gène, mais de la connaissance d'un ensemble de gènes et de leurs interactions, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe d'un point de vue global. Et bien entendu, vous pouvez imaginer que quand vous, volontairement, par exemple, vous inhibez un gène, ça peut avoir tout un tas de conséquences en cascade qui vont faire que c'est pas si simple de dire, ah ben tiens, si quelqu'un a telle maladie qui est induite par tel gène, je vais volontairement inhiber le gène en question, et puis hop, ça réglera le problème. Le deuxième point, c'est que tout ça se passe à l'intérieur de chaque cellule, mais vous avez des milliers de cellules qui sont les unes à côté des autres, et chaque cellule a des interactions biochimiques, mécaniques, physiques, avec les cellules qui sont à côté. Et donc, quand la cellule commence à grossir plus vite, par exemple en s'appuyant sur un certain nombre de gènes, eh bien, tout d'un coup, elle va appuyer plus fort sur les cellules d'à côté. Ça va changer les propriétés, par exemple, de diffusion entre les cellules. Donc, la cellule d'à côté va recevoir moins d'un certain produit qu'elle recevait avant, ce qui va avoir un impact sur le réseau de gènes, qui va empêcher certains gènes d'être actifs. Donc, voilà. Et si vous voulez comprendre, encore une fois, je vous donne deux niveaux de complexité imbriqués, c'est-à-dire le réseau des gènes dans chaque cellule et puis le réseau des milliers de cellules, mais bien entendu, c'est infiniment plus complexe que ça, comme vous pouvez l'imaginer, tout ça n'est pas isolé du monde extérieur, il y a des interactions avec les autres tissus, etc. Et on s'est retrouvé face à une extraordinaire complexité qui faisait que le fait d'avoir réduit le problème en petits morceaux ne suffisait absolument pas à avoir même le début de l'espoir de la possibilité de le résoudre. Et ce point-là, en fait, ce qu'on voit ici dans le contexte de la biologie, j'y reviendrai après, est quelque chose d'extrêmement général. C'est-à-dire que la plupart des problèmes auxquels nous allons être de plus en plus confrontés sont des problèmes de cette nature, c'est-à-dire des problèmes pour lesquels découper ne suffit plus, réduire ne suffit plus. Il y a un énorme travail après, et c'est là-dessus que je vais revenir. Un deuxième point qui est très important et qu'on peut apprendre de cet exemple, de cette histoire de la quête du génome humain, c'est l'immense masse de données qu'il a fallu traiter. C'est-à-dire que pour avoir les informations sur les 30 000 gènes, il a fallu traiter énormément de données, et cela a produit énormément de données. On est face à une profusion absolument gigantesque de données. Et les inventeurs de la connaissance, les chercheurs, les ingénieurs, sont confrontés à quelque chose d'assez inédit. C'est que, par exemple, prenez le domaine de la biologie, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'articles de recherche qui sont publiés chaque année. Donc, si vous êtes un chercheur, c'est tout simplement impossible de les lire. Vous n'avez aucun espoir de pouvoir lire tout ce qui sort, même sur le sujet qui vous intéresse. Et donc, la question de l'extraction de l'information ou de la connaissance de ces publications et de l'extraction automatique est une question qui est absolument fondamentale. Sans outils d'extraction automatique des connaissances, nous ne pouvons plus avancer dans la recherche. Et aujourd'hui, les biologistes ne lisent pas tous les papiers, ils ont des logiciels qui font une prélecture et qui extraient à partir d'un certain nombre de demandes, comme vous faites avec Google, des papiers, des articles de recherche qui peuvent les intéresser, sur lesquels ils font, ou en général ils font faire par leurs doctorants d'ailleurs, une lecture rapide pour savoir quels sont les articles que eux-mêmes vont aller lire. Et la question de l'abondance des données est une question qui est extrêmement importante. On le verra par la suite. Puis dernier point qui est lié à ça, c'est la grande importance aussi de la modélisation et du traitement informatique qui prend et qui est face maintenant à des problématiques à cause des deux points précédents, qui est face à des problématiques nouvelles. Mais il n'y a aujourd'hui pas d'espoir que les grands problèmes auxquels nous faisons face puissent être résolus sans un usage extrêmement important et qui sera extrêmement difficile de modélisation et de simulation et de traitement automatique des données. Donc, ces éléments-là sont des éléments nouveaux. Alors, le dernier est un élément nouveau, j'ai envie de dire, d'abord parce qu'il y a le besoin, et aussi parce que, bien entendu, parallèlement à ce que je décris, on a vu une explosion de nos capacités de calcul, et bien entendu, c'est parce qu'aussi on a des ordinateurs qui nous permettent de traiter ces données que ça prend un rôle absolument central. Cet exemple-là est symptomatique de cette nouvelle connaissance qui est issue de l'étude des systèmes complexes, dont je vais dire quelques mots maintenant et dont je pense qu'ils sont en train de remplir l'espace de la recherche, des problèmes auxquels nous sommes confrontés et qu'il faut que nous organisions pour penser les problèmes en ces termes-là et pour essayer de les résoudre avec des méthodes nouvelles, avec des outils nouveaux et avec des rôles un petit peu différents à jouer par chacun et en particulier par les ingénieurs. Si juste en quelques minutes, qu'est-ce que c'est qu'un système complexe ? Un système complexe, c'est n'importe quel système dans lequel, et je vais vous donner des exemples, on a déjà vu un, dans lequel vous avez des entités, quelles qu'elles soient, qui interagissent de manière locale et pour lesquels il y a un phénomène global qui se produit qu'on ne peut pas ramener à la simple connaissance et compréhension de chacune des entités. Si vous connaissez chacun des gènes ou même chacune des cellules, vous ne pouvez pas comprendre seulement avec ça pourquoi votre doigt va avoir cette forme. C'est un phénomène émergent qui va au-delà de la dont la compréhension va au-delà de la connaissance de chacune des entités. Je vous ai donné un exemple avec la croissance des formes, c'est un exemple en biologie. Peut-être que pour venir assister à cette conférence, vous avez pris votre voiture et qu'est-ce que vous avez fait, je l'espère, vous vouliez aller de chez vous à ici et vous avez appliqué les règles du code de la route. Alors encore une fois, c'est une hypothèse, mais on va une hypothèse d'école. Qu'est-ce que c'est que les règles du code de la route ? Fondamentalement, c'est vous regardez ce qu'il y a autour de vous et vous agissez en conséquence, c'est-à-dire que vous évitez de percuter la voiture devant vous qui s'est arrêtée. Quand elle démarre, vous redémarrez. S'il y a un feu, vous arrêtez, vous laissez la priorité à droite, etc. Ce sont des règles d'interaction locale. Une entité, telle que je viens de la décrire, c'est une voiture, enfin avec un conducteur, vous et votre voiture, et puis vous interagissez avec des règles locales, vous regardez ce qu'il y a autour de vous et vous prenez une décision. À un moment donné, et si vous êtes là, c'est probablement que ça n'est pas arrivé, ou alors que vous étiez préparé à ça, il y a un phénomène global qui se produit, qu'on appelle un embouteillage. Alors, personne ne veut l'embouteillage. Vous n'avez pas voulu l'embouteillage. Vous avez tendance à dire « je suis dans un embouteillage ». Mais en fait, vous êtes l'embouteillage, vous-même, au même titre que les autres. Et à partir du moment où il y a ce phénomène global qui s'est produit, vous allez peut-être vous-même changer votre comportement. Peut-être que donc vous allez peut-être changer vos règles locales. Peut-être que vous allez un tout petit peu moins appliquer le code de la route. Vous allez peut-être prendre sur 50 mètres un sens interdit parce que vous savez que ça va vous permettre de vous en sortir, etc. Et voilà, ça c'est un exemple de système complexe. Alors c'est un exemple de système complexe relativement simple si on le compare au vivant par exemple, mais fondamentalement c'est un exemple de système complexe. Et pour traiter un système comme celui-là, on est amené à essayer de répondre à un certain nombre de questions que je vais vous résumer. La première c'est est-ce que je suis capable de prédire ce qui va se passer dans le système ? Est-ce qu'il va y avoir un embouteillage si je mets des capteurs sur le sol? Est-ce que je peux dire, tiens, dans 10 minutes, attention, il va y avoir un embouteillage? Si une fois que j'ai cette information, est-ce que je suis capable de contrôler le système? Si je suis capable de jouer sur les feux de circulation, est-ce que je peux empêcher que l'embouteillage ait lieu? Et puis un dernier point que je ne détaillerai pas, mais qui est en fait extrêmement important. Il se trouve que ces systèmes sont des systèmes qui ont beaucoup de très 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 bonnes propriétés. Je vous ai cité le vivant, des propriétés d'adaptabilité, des propriétés de ils peuvent être très robustes à un certain nombre de perturbations. Et donc on essaye beaucoup, de plus en plus, de faire des systèmes artificiels qui ont les mêmes propriétés. Et donc il y a une question de conception de systèmes qui ont ces propriétés. Je vous ai donné deux exemples de phénomènes émergents et de systèmes complexes. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y en a partout, et c'est fondamentalement les questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Alors vous allez me dire, les embouteillages, c'est pas nouveau, vous avez raison. Si vous vous intéressez, par exemple, à essayer de comprendre, et c'est une des problématiques professionnelles que je rencontre et que nous rencontrons aujourd'hui, à penser le développement durable d'un territoire. J'ai un territoire, je voudrais m'assurer, être capable de décrire son développement, pour ne pas épuiser les ressources, pour être capable de réduire les émissions de CO2, etc. Si vous voulez prendre ce problème et que vous voulez le comprendre et que vous voulez le modéliser et que peut-être vous voulez le résoudre, vous vous rendez compte que vous êtes obligé, pour le comprendre, vous ne pouvez pas simplement découper votre problème en petits morceaux, résoudre chacun des morceaux et vous considérez que le problème est résolu. Vous allez vous dire, bon, il faut que je m'attaque au problème des transports. Alors vous allez modéliser, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe pour les transports. Mais qui dit transport dit énergie. Donc vous avez besoin de fournir de l'énergie. Alors aujourd'hui, on fournit de l'énergie aux voitures beaucoup avec des hydrocarbures. Mais peut-être que demain, ça sera avec des batteries et des batteries électriques. Mais si vous voulez faire ça, il faut que vous soyez capable de gérer l'énergie. Et puis aussi, il faut que vous soyez capable de gérer la distribution d'eau, tout ce qui est fondamental pour la vie d'un territoire. Ça va être l'eau pour irriguer les cultures, ça va être l'eau pour que les gens puissent boire, etc. Et donc, vous voyez que une des grandes problématiques de l'eau, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la question de l'énergie. Avoir de l'eau propre, c'est fondamentalement un problème énergétique. Ça coûte de l'énergie, on sait le faire, mais il faut mettre beaucoup d'énergie. Plus on veut filtrer, plus ça coûte de l'énergie. Voilà. Et donc, on a simplement, si on veut prendre le territoire dans son ensemble, et c'est à ça qu'on est confronté, on est obligé de le considérer comme un système extrêmement complexe dans lequel il y a des phénomènes émergents qui sont des phénomènes qu'on ne peut pas ramener à la simple compréhension de ce qui se passe au niveau local. Et on est obligé de prendre les problèmes dans leur globalité et d'étudier des systèmes dans lesquels sont intégrées plusieurs dimensions de temps et dimensions d'espace. C'est-à-dire que si vous considérez un système comme ça, vous avez la dimension temporelle de l'individu qui prend sa voiture et qui, grosso modo, son échelle de temps, c'est l'heure. Ce qu'il veut faire, c'est dans l'heure. Mais vous avez des problèmes qui consistent à poser des tuyaux dans le sol pour amener de l'eau. Et ça, c'est l'échelle de temps, c'est la centaine d'années. Et vous avez des échelles d'espace différentes entre la personne et sa consommation au robinet et puis ce que vous faites sur l'ensemble de la ville ou pour des questions d'irrigation. Je ne vais pas aller plus loin. Vous imaginez que les questions liées au changement climatique sont des questions de même nature. Si on veut comprendre le phénomène dans son ensemble, on ne peut pas se contenter d'en regarder une seule partie, même très très en profondeur. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail par rapport à ça, mais ces problèmes-là, on les retrouve aujourd'hui absolument partout. Et les grands problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont, pour la plupart, des problèmes de cette nature. Et Il y a quelques idées importantes que je voudrais mentionner, et je n'irai pas beaucoup plus loin dans la description de toute cette problématique et toute cette nouvelle connaissance qu'il faut qu'on invente pour régler ces problèmes. Je vais simplement mentionner quelques points. Il y a des points très importants. Le premier, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer résoudre un problème en étant les champions du monde d'une micro-discipline. Premier point très important. Il y a énormément, comme je l'ai dit, de systèmes imbriqués les uns dans les autres, à des différentes échelles de temps et d'espace, et ça pose tout un tas de problèmes nouveaux, qui vont de problèmes très théoriques à des problèmes très très appliqués. Il y a bien entendu un travail sur des masses considérables de données hétérogènes, puisque, prenez la question du développement durable, les données que vous avez à traiter sont des données qui sont de nature très très différente. Et il y a bien entendu une place très importante à la modélisation et la simulation. Ce sont des phénomènes extrêmement importants. Et alors, je vais revenir là sur la place de l'ingénieur. C'est un point qui est le sujet en tant que tel mériterait de nombreux développements. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup et qui a beaucoup d'aspects très intéressants. Tout le monde va concourir à l'invention de cette nouvelle connaissance. Il y a des aspects extrêmement importants de formation. L'écrit va jouer un rôle fondamental. La notion de partage de l'information va jouer un rôle fondamental. Dans les documents que vous avez, il y a mention d'un livre qui va sortir, que j'ai écrit sur bouquineo.fr, dans lequel je traite l'ensemble de ces questions-là. Mais là, je vais revenir, donc après la minute de publicité, je vais revenir sur la question des ingénieurs et sur pourquoi cette connaissance, finalement, pourquoi cette connaissance est si importante. On est face à de plus en plus de problèmes d'importance globale. Vous pouvez le voir, la connaissance est considérée aujourd'hui comme quelque chose de bien plus important que ce qu'elle était avant. Vous n'avez qu'à voir les grands débats qu'il y a autour des classements de Shanghai des universités. Quelle est la meilleure université? Où sont les meilleures universités? On peut critiquer ou pas la manière dont c'est fait, mais tout le monde en tient compte aujourd'hui parce que ça a une valeur économique extrêmement importante. Nos amis chinois forment, par exemple, personne n'est vraiment sûr des chiffres, mais on estime qu'ils forment à peu près 350 000 ingénieurs par an. On ne sait pas combien ils forment de docteurs, et ces chiffres sont un peu contestés, mais ça donne un ordre de grandeur. Enfin bref, je ne vais pas détailler non plus cette question-là, mais la connaissance et cette nouvelle connaissance est extrêmement importante. Elle pose des nouvelles questions, en particulier en termes de partage et de protection de la connaissance. Un des grands enjeux qu'il y avait derrière Copenhague, c'est comment est-ce que les pays développés vont pouvoir faire partager la connaissance qu'ils ont développée aux pays qui sont moins développés. Et ça mériterait plusieurs conférences, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, si on regarde et pour arriver à la conclusion de cette conférence, finalement, la place des ingénieurs et la place que les ingénieurs peuvent jouer dans l'invention de cette nouvelle connaissance. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la manière dont cette nouvelle connaissance, qui est autour des systèmes complexes, est inventée? Alors, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. La première, c'est que beaucoup de frontières sont abolies. C'est-à-dire que dans ce schéma que je vous avais décrit entre la science et la recherche fondamentale et la recherche très appliquée, et puis le développement et le déploiement, qui traditionnellement, dont les rôles étaient assez bien organisés et assez bien séparés, en fait, ça se raccourcit énormément. Il y a une très très grande proximité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre la recherche fondamentale et les applications quand on travaille sur ces sujets, et ça, c'est un point important. Vous allez voir que dans tout ce que je vais dire, il y a là où d'habitude il y avait un « ou », maintenant je vais proposer de mettre un « et ». Le fondamental et l'appliqué sont très proches. On est obligé, si on veut étudier ces systèmes tous imbriqués les uns dans les autres, à la fois pour comprendre et pour maîtriser, d'aller en profondeur et être capable d'intégrer des systèmes et des modèles très différents. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de la profondeur et de la largeur. On a besoin de théorie et d'expérimentation et de modélisation et de simulation. C'est-à-dire qu'on peut plus séparer l'ensemble de ces aspects. Parce que dans un système complexe, vous avez des systèmes, des sous-systèmes que vous allez étudier par la théorie, d'autres par l'expérimentation, d'autres par la simulation. Et vous ne pouvez pas étudier les uns sans étudier les autres. Et puis un dernier point sur lequel je ne m'étendrai pas non plus, c'est l'importance dans tous ces sujets, en fait, si vous y réfléchissez, il y a très souvent l'homme dans la boucle. Et qui dit l'homme dans la boucle, prenez le climat, prenez le développement durable, dit qu'il faut que les sciences humaines et sociales travaillent ensemble avec les sciences dures. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, mais qui me semble être extrêmement important. C'est quelque chose qui nous demande de travailler moins en silo. Alors, pour l'invention de cette nouvelle connaissance, et puis je vais terminer là-dessus, quelles sont les forces et faiblesses des ingénieurs? Les ingénieurs, en général, ont une très très grande capacité d'intégration, d'adaptation à l'hétérogénéité des systèmes et des modèles. Et ça, c'est très important. Et les formations généralistes qu'ont souvent reçu les ingénieurs jouent un rôle très important là-dedans, et dans lesquelles, en particulier, il y a beaucoup plus d'interdisciplinarité que ce qui peut être dans les formations, par exemple, des docteurs. Les faiblesses, qui sont des faiblesses générales du système de formation des ingénieurs, en particulier en France, c'est qu'il y a peu de connaissances du monde de la recherche. Les ingénieurs sont peu mis en contact dans leur formation avec le monde de la recherche. et de cette recherche qui est menée en profondeur pendant 3 ans et de ce travail vraiment en profondeur. Je suis évidemment pas en train de dire qu'ils ne sont pas capables de le faire, hein. C'est ce que je dis, c'est des choses assez générales sur un certain nombre de plutôt d'ordre statistique. Et ce qui est clair, c'est que ces petits problèmes là, dont face aux nouvelles problématiques liées à cette nouvelle connaissance issue des systèmes complexes, va poser des problèmes dont l'ampleur va grandir. Et puis dernier point que j'ai pas mentionné, c'est que évidemment les problèmes auxquels on est confrontés sont de plus en plus internationaux. J'en ai cité le développement durable, l'environnement, il y en a beaucoup d'autres, et les ingénieurs vont être de plus en plus confrontés en compétition avec des gens qui sont parfois ingénieurs mais qui très souvent à l'étranger. Les meilleurs éléments deviennent non pas des ingénieurs mais deviennent des docteurs. Et dans un contexte international, le fait qu'en France les meilleurs éléments deviennent des ingénieurs peut être une problématique. Alors je vais mentionner un dernier point parce qu'il me paraît extrêmement important. J'étais jusqu'à hier dans la Silicon Valley où j'allais voir pour mon entreprise un petit peu ce qui se passe là-bas. Les ingénieurs français sont formés fondamentalement pour intégrer des grosses structures ou éventuellement des PME, mais pas assez pour former des start-up. Et ça, c'est un point extrêmement important. Dans ce schéma que je vous décris, dans lequel pour résoudre un problème, il faut des multitudes de petites solutions et leur intégration, il y a beaucoup de ces petites solutions qui vont être amenées, ou des solutions d'intégration qui vont être amenées par des start-up. En France, on manque cruellement de start-up, et une des raisons pour lesquelles on manque cruellement de start-up, c'est que on ne forme pas assez les gens les plus brillants, qui très souvent sont les ingénieurs, à ça. Et ça me paraît être à l'avenir de plus en plus important. Et donc, en un mot, on a en France une filière d'ingénieurs qui est formidable. Il faut pas se leurrer. On peut la critiquer, on peut émettre des remarques. Je l'ai fait. On a une filière d'ingénieurs qui est formidable. Nos écoles d'ingénieurs forment des gens qui ont énormément de qualité. Je crois que en modifiant un petit peu ce qu'on fait, finalement, pas tant que ça. On serait capable d'être vraiment extrêmement bien placé dans cette course qui va être la course à la connaissance et cette course qui va être la course à la nouvelle connaissance que je viens de vous décrire. Si on mettait nos ingénieurs plus en contact, plus tôt, avec la recherche, si on avait plus d'ingénieurs qui devenaient docteurs, parce que moi je peux vous dire, quand on a quelqu'un qui a fait une bonne école d'ingénieur, qui a eu une bonne formation généraliste, qui est capable de faire tout ce travail d'intégration et qui en plus est capable de faire le travail d'aller très en profondeur sur un sujet, ça a une valeur énorme. Et c'est d'ailleurs de mieux en mieux reconnu, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde public. Et puis dernier point, je crois que j'y reviens et j'insiste, mais quand on sort de la Silicon Valley, le fait que la France n'arrive pas à rentrer dans ce champ du développement de manière très importante de start-up, et que nous avons beaucoup de mal, même si beaucoup d'écoles font des efforts dans la formation, et si que ce soit les gouvernements de droite ou de gauche, tout le monde dit il faut y aller, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place pour aider à ça, et il faut rendre hommage à tous les gens qui l'ont fait. On est encore loin derrière par rapport à ça, et il faut continuer l'effort, et je pense que là, en particulier, les ingénieurs ont un rôle très important à jouer. Je vous remercie de votre attention.
Merci Michel. La parole est à la salle. Je vois une main qui se lève. Monsieur, si on peut lui apporter un micro. Il arrive.
Je suis ici, monsieur. Je vais attraper au bon votre conclusion où vous parliez des start-up et vous disiez également que les ingénieurs français, il leur manque une partie, il faudrait qu'ils puissent être ingénieurs. Mais vous savez, il y a seulement qu'une vingtaine d'années que l'on a supprimé le beau diplôme que nous avions qui s'appelait le diplôme d'ingénieur docteur. Et à travers le charcutage que l'on fait maintenant de l'université, des grandes écoles, je crois que nous sommes mal partis.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le... Merci pour votre question. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le charcutage université grandes écoles qui mériterait aussi d'avoir une ou plusieurs conférences à la suite. Changer n'est jamais simple. Je crois qu'il y a des gens qui essayent de changer le système, parfois dans un bon sens, parfois dans un mauvais. Je vois quelque chose de positif, en revanche, à ce charcutage des universités grandes écoles. En tout cas, on a une opportunité, c'est de mettre plus les universités et les grandes écoles en contact. C'est-à-dire de permettre plus à chacun de rencontrer l'autre. On souffre énormément d'un fonctionnement en silo, à beaucoup de niveaux, mais en particulier au niveau de la formation. Et on a aujourd'hui, par le rapprochement qu'il peut y avoir entre les universités et les grandes écoles, une opportunité, non pas de recréer le diplôme de docteur ingénieur, que vous mentionnez à juste titre, mais en revanche, d'avoir la possibilité que les docteurs et ou les ingénieurs aient plus touché à ce qui se passe de l'autre côté. Je crois que ça, c'est ça qui est le plus important, en fait.
Sur la gauche. Bonsoir, monsieur. Paul Arnaud, je suis docteur en droit. Je voudrais vous poser également une question sur la formation des docteurs. D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le docteur, selon moi, et en particulier dans les sciences humaines auxquelles vous avez fait allusion, le docteur est celui qui a fait des études doctorales. Ça présente des mérites quand même, d'avoir beaucoup lu, ce qui développe son, ce qui lui permet d'avoir une vision pour trouver les cohérences d'une matière. Ça développe aussi un esprit critique et ça permet d'avoir un style de bien rédiger. C'est intéressant, la collusion que vous avez décrite entre l'ingénieur et puis le docteur, bien évidemment. La recherche fondamentale est appliquée. Mais là, est-ce que vous pensez que les études doctorales sont en voie de perdition? C'est-à-dire, vous êtes au courant très certainement que y a des projets qui ont été qui sont pas seulement dans les cartons, mais qui existent pour réduire la durée du doctorat, non seulement en droit, mais je crois aussi dans d'autres matières, de 3 ans, passer à 1 an, reconductible une fois. Là, actuellement, c'est 3 ans, reconductible une 4e, voire une 5e année. Est-ce que le doctorat est menacé de devenir un diplôme préhistorique?
Michel. Alors d'abord, premier point, je partage entièrement ce que vous décrivez, le point de vue que vous décrivez par rapport à l'importance du doctorat. Je pense que c'est une formation extrêmement importante et qu'il faut absolument conserver. On peut faire des modifications à la marge, mais en tout cas, à mon avis, certainement pas le faire passer de 3 ans à 1 an. Enfin, ça n'aurait absolument, encore une fois, de mon point de vue, aucun sens. Alors je ne connais pas les projets auxquels vous faites allusion, donc je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que... pardon. Le doctorat, on en a besoin, et de toute façon, j'ai envie de dire, de manière même plus pragmatique, enfin, je suis évidemment un défenseur de ce diplôme-là, encore une fois, je ne dis pas qu'il est mieux que les autres, mais je pense qu'il a sa place, et je crois simplement qu'on n'a pas le choix, je l'ai un petit peu mentionné, le doctorat est le diplôme le plus reconnu au niveau international. Donc, de toute façon, même si on avait envie chez nous, en France, d'arrêter le doctorat, on ne pourrait pas le faire, et le doctorat, à ma connaissance, dans tous les pays du monde, c'est 3 ans ou plus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels les gens passent plus de temps, les systèmes sont différents, mais je ne pense pas qu'il y ait des pays, sauf cas exceptionnels, où on fasse un doctorat en moins de 3 ans. Dernier point, je crois que l'importance du doctorat, en tout cas dans le monde privé, ne fait qu'augmenter actuellement. Alors, il ne faut pas se cacher la vérité, c'est pas encore assez, à mon sens. Et en particulier, c'est pour ça que quand j'ai l'occasion de parler, y compris devant des publics d'ingénieurs, et notamment dans les écoles d'ingénieurs, où il m'arrive d'intervenir, je dis toujours, il faudrait qu'il y ait plus d'étudiants ingénieurs qui fassent un doctorat pour être confrontés exactement à ce que vous avez décrit. Donc, je vous suis et j'espère que ça ne va pas passer à 1 an.
Monsieur Devant. Bonsoir. Je voulais vous demander ce dont vous parlez comme évolution nécessaire, enfin est déjà entamée sur l'interdisciplinarité, la capacité à travailler en équipe, aussi une certaine humilité face à l'importance des connaissances qu'on n'est plus capable de maîtriser. Est-ce que ça n'affronte pas de façon assez directe, assez frontale, l'idéologie méritocratique finalement, qui reste au cœur, même si dans sa pratique elle est un peu écornée, qui reste quand même le fondement philosophique de l'enseignement en français. Et est-ce que c'est soluble comme question?
Alors, je ne pense pas que ça soit qu'il y ait une opposition, d'ailleurs, qui irait dans un sens ou dans l'autre, entre la méritocratie qu'il faudrait définir hein, de manière précise et le fait qu'il y ait une interdisciplinarité, qu'on ait besoin d'avoir plus d'humilité. J'espère qu'on peut à la fois être issu d'un système méritocratique et être humble. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est souhaitable. Je crois que, en revanche, ce qui est dangereux, c'est quand il n'y a qu'une seule manière, que le mérite n'est reconnu que d'une seule manière. Je ne pense pas qu'on puisse s'opposer, en tout cas moi je ne le fais pas, à une reconnaissance du mérite, à une reconnaissance du travail, à une reconnaissance des talents. Il faut simplement accepter que les talents peuvent être de nature extrêmement différente. Mais dire que les talents peuvent être de nature différente, et éventuellement dire qu'un système, le nôtre ou un autre, ou quel qu'il soit, ne reconnaît et ne valorise qu'un certain type de talent est une chose, il faut la changer, mais pour autant, à mon sens, il ne faut pas s'opposer à l'idée de méritocratie, parce que ce que je n'ai peut-être pas assez dit, c'est que pour faire ce que je viens de décrire, pour être capable de faire de la recherche interdisciplinaire, pour être capable de prendre les problèmes dans leur ensemble, pour être capable d'écouter les autres, faire tout cela requiert énormément de travail et souvent beaucoup de talents variés. Dans des champs variés. Donc moi, je n'opposerais pas ça à la méritocratie.
Il y avait une question à gauche, et puis monsieur au deuxième rang.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une remarque et une question. En fait, ma remarque, elle reviendrait un peu sur le débat qu'on avait juste avant, c'est-à-dire le lien ingénieur-docteur. Quand on vous écoute, j'ai un peu l'impression qu'on était forcément soit l'un, soit l'autre. Et ce que j'observe de plus en plus autour de moi en ce moment, c'est que ce sont des ingénieurs qui, après leur diplôme, font une thèse. Et donc, 3 ans après, ont le diplôme de docteur. Donc, en fait, ils ont le double statut ingénieur-docteur. J'en vois énormément. Dans 15 jours, j'en serai une. Et c'est finalement, à mon avis, le résultat du fait que le privé se tourne de plus en plus et valorise de plus en plus les doctorats, presque au détriment des diplômes d'ingénieurs. Tout à l'heure, vous disiez que dans le privé, on négligeait peut-être un petit peu la valeur d'un doctorat, et maintenant, finalement, dans les centres de R&D des grands groupes industriels, on trouve essentiellement des ingénieurs docteurs, voire des docteurs tout court. Bon, ça, c'était juste pour ma remarque. La question, c'était, vous avez évoqué, en parlant des formations des ingénieurs, la qualité des formations, et notamment qui sont issues de concours prestigieux, etc. En gros, vous parliez des grandes écoles. Et je voulais savoir ce que vous pensiez des écoles qu'on appelle à prépa intégrée, qui se multiplient énormément en France en ce moment, enfin depuis pas mal d'années d'ailleurs, avec notamment les groupes genre Polytech, INSA et ce genre de choses-là. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces formations? Est-ce qu'à vos yeux, elles ont la même valeur, entre guillemets, on va dire, que, je sais pas moi, les mines, l'IX et compagnie? Ou est-ce que vous faites de poids de mesure, ou est-ce qu'à votre avis, un diplôme d'ingénieur est un diplôme d'ingénieur, point barre. Est-ce que, voilà.
Alors, d'abord, une remarque par rapport à votre remarque. Je pense, vous avez tout à fait, d'abord, je vous souhaite bonne chance pour vos soutenances de doctorat, qui est, si j'ai compris, dans 15 jours. Vous avez tout à fait raison, le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur, de docteur en plus d'un diplôme d'ingénieur, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est assez naturel que dans des centres de R&D qui sont amont, on recherche des gens qui ont un doctorat. Et en particulier, si on peut se dire, si en plus ils sont ingénieurs, on est très content. Donc c'est clair que les choses vont aller dans ce sens-là. Ça n'est pas nécessairement étonnant qu'un diplôme à bac plus 8 dans certains cas, et pour certains métiers particuliers, et pour certaines fonctions particulières, puisse être plus reconnu qu'un diplôme à bac plus 5. Encore une fois, on peut pas s'en étonner, même si traditionnellement, ça n'était pas le cas, pour tout un tas de raisons, et en particulier celles qui sont liées à votre deuxième question, enfin à votre question, qui est la qualité, et le fait que pour beaucoup, enfin en tout cas un certain nombre de ces écoles d'ingénieurs, recrutent des élèves qui ont un très bon niveau, et que c'est évidemment la qualité de la personne et de l'individu, quel que soit le diplôme qu'on a, joue un rôle très important. Donc, pour passer à votre deuxième question, je pense que c'est très bien qu'il y ait des écoles à classe prépa intégrée. J'aime pas tellement faire des grands classements et des grandes hiérarchies en disant ça c'est mieux que ça. Je crois que ce dont on souffre le plus en France, c'est de l'absence de diversité. On a besoin d'accepter que, par exemple, l'excellence ou le mérite peuvent avoir des formes différentes et prendre des formes différentes. Il y a des gens qui vont exprimer tout leur talent, et j'en connais, dans des écoles d'ingénieurs qui sont issues d'écoles à prépa intégrée. Il y a des gens qui vont exprimer tout leur talent, et qui peut être aussi grand que les autres, dans une université, et d'autres à l'IX ou dans une école normale supérieure. Je crois qu'une des choses qu'on a le plus à apprendre en France, et c'est très très net quand on va à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas une seule voie pour l'excellence, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai pas du tout de problème, et au contraire, je manque absolument pas de respect ou d'intérêt pour les écoles à prépa intégrée, loin de là, vraiment.
Monsieur. Pour information, pourriez-vous nous dire combien vous avez d'ingénieurs et de docteurs à Veolia, et pour combien de programmes, et quelle est la bonne proportion?
Alors, pardon, je peux vous répondre pour la R&D, pas pour Veolia dans son ensemble. Enfin, Veolia, c'est 350 000 employés, hein, donc ça va être un peu difficile pour moi de répondre sur l'ensemble. On a beaucoup d'ingénieurs qui sont pas à des postes de R&D, qui sont à des postes d'ingénieurs ou ensuite des postes de management. Dans la R&D, actuellement, je dirais, je vais pas vous donner les chiffres exacts au chiffre près, qu'on doit avoir quelque chose comme moitié-moitié ingénieur-docteur sur une population de chercheurs de 350 personnes. Voilà, dans les labos de recherche de Veolia. Et c'est à peu près moitié-moitié entre les ingénieurs et les docteurs. Sachant que là, c'est ce dont je vous parle dans les laboratoires de recherche. En fait, la R&D de Veolia va beaucoup plus loin, puisqu'il y a de l'industrialisation, il y a du déploiement. Et si on compte le déploiement, l'industrialisation et le déploiement, on est beaucoup plus nombreux, bien entendu. Et là, la proportion d'ingénieurs est beaucoup plus grande que la proportion de chercheurs. De docteurs, pardon.
Monsieur. Alors, bonsoir. Je voulais vous poser deux questions. La première question, c'est que je voudrais savoir ce qu'il en est des start-up dans les pays asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. C'est une première question. La deuxième question, je voudrais vous demander votre sentiment sur les couacs qui ont eu lieu, notamment au niveau de la mise en production de l'A380, à savoir que plusieurs problèmes avaient été résolus localement, et quand il a fallu mettre tout ensemble, eh bien, ça n'a pas très bien marché. Et ce problème-là se pose aussi à une autre échelle, notamment pour le fonctionnement du LHC. Et il semblerait qu'il manque une catégorie, je ne sais pas s'il faut les appeler des docteurs ou des ingénieurs, qui seraient chargés qui pourraient servir de maillon entre les différents éléments. Et ça manque énormément. Et on le voit, par exemple, aussi dans un autre domaine, c'est pour la fission. Pour la fission, il manque une catégorie de gens, et on ne sait pas quelle est la catégorie. Avez-vous quelques idées là-dessus, s'il vous plaît?
Alors, en ce qui concerne le premier point, les pays asiatiques, que ce soit la Chine, la Corée du Sud ou l'Inde, sont extrêmement actifs en termes de start-up. Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Simplement, ce que je sais, c'est pour avoir rencontré des capitaux risqueurs américains, donc ce qu'on appelle en anglais des venture capitalistes, qu'ils investissent de plus en plus d'argent dans des start-up issues de ces pays-là. Donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dynamique. Ce qui caractérise le monde des start-up, c'est vraiment le dynamisme, et ces pays sont actuellement très, très, très dynamiques et poussent vraiment à ça. Alors ensuite, ça se décline de manière différente. C'est très fort en Inde. La Corée du Sud a une industrie extrêmement puissante, avec Samsung, etc., enfin, qui sont des boîtes énormes, et a parfois un peu le même problème que la France, c'est-à-dire que il y a des très 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 grosses, on sait gérer des très très et pousser des très très grosses entreprises, on sait un petit peu moins faire ce lien entre start-up et très très grosses entreprises, alors que c'est tout le tissu qui est important, c'est pas simplement l'un ou simplement l'autre. Donc des réponses mitigées, enfin pas mitigées, mais en tout cas adaptées à chacun des cas. Mais il y a un très très grand dynamisme. Il y a aujourd'hui beaucoup de domaines dans lesquels le nombre de brevets déposés par des start-up est largement dominé dans le monde par ce qui est déposé en Asie, par exemple. Alors sur votre second point, l'exemple que vous prenez de l'A380 est très symptomatique. Aujourd'hui, il y a un domaine dans lequel je vous ai les exemples que j'ai donnés de systèmes complexes. J'ai volontairement fait ce choix. Sont des exemples où on étudie des systèmes complexes, on les observe et on essaye de les comprendre et éventuellement de les contrôler. Il y a l'autre côté qui est ce qu'on appelle les systèmes industriels complexes, où là, on met en place des systèmes, on les crée. Je l'ai un tout petit peu évoqué, mais on les crée par le haut, entre guillemets, comme quand on conçoit un Airbus ou un TGV, où on les crée par le haut et où, de plus en plus, on est confronté à l'apparition de la complexité. Et vous avez raison, on a un vrai problème de compétences pour gérer cette complexité. Alors, depuis quelques années, il y a des formations qui ont été mises en place, notamment, il y en a une qui a été mise en place... Alors, je vais bien entendu oublier tous les partenaires, mais je sais qu'elle s'appuie sur l'École Polytechnique et justement sur les systèmes industriels complexes pour essayer de répondre à cette question. Et je sais qu'aujourd'hui, je vous cite celle-là parce que c'est un de mes amis qui s'en occupe et c'est pour ça que je la connais bien, mais je sais que de plus en plus, que ce soit d'ailleurs les écoles d'ingénieurs ou les formations doctorales, il y a cette sensibilisation au fait que, exactement comme je l'ai expliqué, pour les systèmes, en tout cas un certain nombre de systèmes naturels, et il se trouve que c'est les exemples que j'ai choisi de prendre ce soir, les systèmes industriels posent les mêmes problèmes. Et ce que vous dites à propos des systèmes industriels, l'ensemble de ceux que vous avez cités, et le fait qu'on n'ait pas les gens pour s'en occuper, encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer les personnes qui font ce travail, c'est un travail immense, mais ça rentre exactement dans le fil de ce que j'essaye de décrire. Nous sommes collectivement, dans tous nos domaines d'activité, face à un nouveau type de connaissances. Et on a besoin, je n'ai pas évoqué la question générale de la formation, j'ai parlé de la formation d'ingénieur ou de docteur, mais les questions de formation, elles commencent très très en amont. Penser les problèmes de manière systémique, comme on a besoin de le faire dans les exemples que vous avez choisis, comme on a besoin de le faire dans les quelques exemples que j'ai présentés, va devenir absolument nécessaire.
On peut peut-être prendre une dernière question.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ma question dérive de la question qu'avait posée la demoiselle ou la dame d'en bas là-bas. C'était à propos de, quand on vous écoutait, soit il y a le docteur d'un côté, soit les ingénieurs de l'autre. Est-ce que la troisième voie que vous voulez tracer, c'est la transversalité de la formation?
Je pense qu'on a à gagner, par exemple, oui. Je pense qu'on a à gagner à ce que les formations se croisent. Je pense qu'on a à gagner, par exemple, à ce que plus d'ingénieurs fassent un master. En général, c'est possible, un master de recherche, au moins qu'il y ait ce contact. Dans certaines écoles d'ingénieurs, ce que je dis là est une banalité. Dans d'autres écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a même certains enseignants qui disent aux étudiants « Non, non, ne fais pas un master, c'est pas la peine, ça sert à rien ». Et on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que... nous devons collectivement favoriser la transversalité et essayer de supprimer les silos. Les problèmes auxquels nous avons à faire face sont des problèmes absolument gigantesques. Et pour que nous puissions espérer les résoudre, il faut que nous arrêtions de fonctionner en silos. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, et vraiment je vous en remercie, qui finalement, d'une manière ou d'une autre, reviennent à ça. C'est-à-dire, on a une formation très très organisée en silo, et il faut arriver à ouvrir ça. Si l'idée que j'ai fait passer était que j'opposais les docteurs aux ingénieurs ou que je disais qu'il y avait que ça de possible, c'est vraiment une erreur de ma part. C'est pas du tout l'objectif de mon discours. En revanche, et au contraire, c'est de dire de plus en plus les choses vont se mélanger, de plus en plus on va avoir besoin de gens qui sont capables de faire les deux. Et il faut qu'on soit capable de s'organiser pour cela, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des laboratoires de recherche publique, que ce soit au niveau du privé, des entreprises, et plus généralement, je n'évoque pas ici, mais je pense que c'est une idée qui a une grande importance dans ce contexte, au niveau de la société tout entière.
Allez, encore une. Ce sera cette fois-ci
Merci
la dernière.
Monsieur. Je vais vous poser une question d'actualité. Merci. En ce qui concerne la transversalité des différentes disciplines. Est-ce qu'en ce moment, vous pensez qu'il y a un avenir pour découvrir comment on arrivera à éliminer les tremblements de terre à partir de Wegener et la dérive des continents?
Alors, je ne suis absolument pas spécialiste du sujet. Je serais étonné qu'on arrive à éliminer les tremblements de terre, mais j'avais eu l'occasion de travailler avec des spécialistes, mais encore une fois, je n'ai pas du tout de compétences particulières dans ce domaine. Ce que je crois qu'on est capable plus de faire qu'avant, et à mon avis, c'est vers là qu'il faut aller, c'est pas tellement de se dire je vais essayer d'empêcher un tremblement de terre. On est en face pour l'instant de forces qu'on est absolument, absolument, absolument incapable de maîtriser, et on est incapable d'agir sur ces phénomènes, sauf peut-être de manière involontaire. Vous savez peut-être qu'on pense que le barrage des Trois Gorges en Chine est responsable, en tout cas certaines personnes font cette hypothèse, et la masse d'eau accumulée est responsable de certains tremblements de terre extrêmement meurtriers qui ont eu lieu dans la région. J'ai pas de point de vue sur cette question en particulier. En revanche, mais en tout cas des gens le pensent, mais on est très très loin d'être capable de jouer un rôle sur le fait qu'ils apparaissent ou pas. En revanche, ce que l'on est capable de faire de plus en plus est d'identifier les endroits où les dégâts seront plus ou moins considérables si un tremblement de terre a lieu. Donc on est capable de savoir quels sont les endroits où il y a des risques sismiques, ça on le sait, on arrive à le savoir, et on est capable d'aller plus loin et d'identifier en fonction, voilà, à tel endroit, sur un risque sismique global, sur une région, ben attention, là on peut éventuellement développer une ville et là on peut pas. Alors c'est facile à dire, bien entendu, parce qu'en général les villes elles sont déjà là, mais je crois, à ma connaissance, la recherche va beaucoup dans cette direction-là. C'est-à-dire, alors bien entendu, essayer que les dégâts soient moindres s'il y a un tremblement de terre à un endroit où il y a une ville. Mais on va plus pouvoir aller dans la direction de éviter de se trouver à un endroit où s'il y a un tremblement de terre, les dégâts sont considérables, plutôt que d'être capable d'empêcher des tremblements de terre.
Merci Michel. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.